L'île du crâne, chapitre 14, à travers le miroir. L'école était déserte. David était allé se coucher, trop déprimé pour faire autre chose. Son évasion n'avait mené à rien, et Jill restait introuvable. Il avait tout simplement vécu le pire anniversaire de sa vie. Et si les choses se passaient comme il s'y attendait, ce serait probablement le dernier. Le sommeil ne venait pas. Où étaient les autres? Il était arrivé à 6 heures. 4 heures plus tard, allongé dans l'obscurité, il n'avait toujours pas vu ni entendu âme qui vive. Il faut dire qu'il n'y avait plus aucune âme à Groucham Grange. Elles avaient été vendues depuis bien longtemps, et David le savait trop bien. Soudain, un bruit de pieds nus marchant sur le plancher du dortoir l'alerta. Il se dressa dans son lit. C'était Jill. Il se détendit, soulagé de la revoir. « Jill !»« Bonsoir, David, » dit-elle d'un air aussi accablé que le sien. « Alors tu n'as pas réussi ?»« Si, mais c'est une longue histoire, » répondit David en quittant son lit. Il était encore tout habillé. « Où sont les autres ?» Jill haussa les épaules. Il était difficile de distinguer son visage dans la pénombre. « Que t'est-il arrivé après mon départ en bateau ?»« Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, je voudrais te montrer quelque chose. Viens. » David quitta le dortoir derrière elle, légèrement dérouté par son attitude. Jill semblait en bonne santé, et il supposa que personne ne l'avait punie pour son rôle dans l'évasion. Pourtant, elle paraissait froide, distante. Lui reprochait-elle de l'avoir abandonnée? Après tout, c'était compréhensible. David lui-même se le reprochait. « J'ai découvert toutes sortes de choses sur Groucham Grange, David, » reprit-elle, alors qu'il descendait l'escalier. « Surtout en ce qui concerne les enseignants. »« Jill !» l'interrompit David, en posant la main sur son bras pour l'arrêter. « Je suis désolée d'avoir dû partir sans toi. » « Ce n'est rien, David. Tout est pour le mieux, » dit-elle avec un faible sourire. Son visage était pâle dans la lumière lugubre du hall. Jill s'écarta de David et pressa le pas en direction de la bibliothèque. « Les professeurs sont tous... Enfin, ils ne sont pas tout à fait humains, » poursuivit Jill. « Monsieur Kilgrow est un vampire, Madame Windergast une sorcière, Monsieur Fitch et Monsieur Teagle font de la magie noire. Ils étaient deux personnes distinctes, jusqu'à ce que l'une de leurs expérimentations tourne mal. Monsieur Creer est un fantôme, et Mademoiselle Pédicure est éternelle. « Mais pourquoi nous veulent-ils avec eux ? » demanda David. « Pour nous enseigner, » répondit Jill en arrivant devant la porte de la bibliothèque, dont elle tourna la poignée pour entrer. « Tu es le 7e fils du 7e fils, et moi la 7e fille de la 7e fille. Et alors ? Cela signifie que nous sommes des sorciers. Nous sommes nés ainsi. » Ce n'est pas notre faute, mais comme tous les autres élèves ici, nous avons des pouvoirs. Les enseignants de Groucham Grange veulent tout simplement nous apprendre à les utiliser. Des pouvoirs ! Sursauta David en saisissant la main de Jill pour la forcer à le regarder en face. Elle ne résista pas, mais son regard sembla le traverser. Je n'ai aucun pouvoir, pas plus que toi. Si, David, nous en avons. Seulement, nous ignorons comment nous en servir. Jill se tenait devant le miroir. Elle leva la main et tapota la glace, puis se tourna vers David. « Use de ton pouvoir, » lui dit-elle d'un air de défi. « Passe au travers du miroir. »« À travers le miroir !» David regarda le miroir, puis Jill et à nouveau le miroir. Il se rappela son rêve, comment il avait traversé ce même miroir et marché jusqu'à une grotte souterraine. Mais ce n'était qu'un rêve. Maintenant il était éveillé. La glace était solide. Seule Jill apparemment avait craqué. « Tu peux le faire, » insista Jill. « Tu en as le pouvoir. Il te suffit de l'utiliser. Mais essaie !» Furieux, désemparé, un peu effrayé, David écarta Jill et mit son épaule contre la glace. Il allait briser le miroir, ça lui apprendrait. Ensuite, il découvrirait pourquoi elle se comportait ainsi. Son épaule s'enfonça dans la glace. Surpris, David perdit l'équilibre et faillit tomber. Sa tête et ses mains touchèrent le miroir, ou plutôt touchèrent le vide, comme si l'obstacle n'existait pas. Une seconde plus tôt, il était dans la bibliothèque, et maintenant, il respirait l'air froid d'un tunnel et frôlait la paroi du rocher, humide et luisante. David jeta un regard en arrière. Le tunnel semblait barré par une plaque d'acier, l'autre face du miroir. Puis Jill apparut. Elle sembla franchir un voile d'eau, et elle se planta devant lui, les mains sur les hanches. « Tu vois bien, je t'avais dit que tu pouvais le faire. » « Et comment le savais-tu ? » « Je sais bien d'autres choses, » dit Jill. Elle passa devant lui et s'engagea dans le tunnel. David la suivit en se demandant si finalement il était réellement éveillé. Pourtant, tout semblait réel. L'air froid le faisait frissonner. Il sentait un goût d'eau salée sur ses lèvres, le poids oppressant des rochers au-dessus de lui. Le passage descendait très profondément et ses oreilles se bouchèrent sous l'effet de la pression. « Où ce tunnel mêle-t-il ? » questionna David. « Tu verras. » Quelques centaines de mètres plus loin, apparut une étrange lueur argentée. Aucune ampoule électrique ni aucune torche n'éclairait le tunnel, et David prit soudain conscience que cette lueur argentée emplissait le passage depuis le début. C'était une sorte de brume au-dessus d'un lac souterrain. Jill s'arrêta. David pressa le pas pour la rejoindre. Le tunnel déboucha dans une immense caverne. La caverne de son rêve. Des stalactites et des stalagmites pointées, parfaitement sculptées. Une cascade pétrifiée d'un blanc brillant couvrait toute une paroi. Et au beau milieu de tout cela se dressait l'autel du sacrifice, un bloc de granit massif, ultime et terrible point final. Monsieur Kilgrow se tenait à côté, il les attendait. Jill avait conduit David jusqu'à eux. David fit volte-face et chercha sur elle ce qu'il savait y trouver et qu'il aurait dû voir plus tôt. Sur son troisième doigt, le majeur, une bague noire. Il secoua la tête, la gorge serrée. « Jill, depuis quand as-tu 13 ans ?»« Hier, » répondit Jill avec un regard de reproche. « Tu ne m'as pas souhaité mon anniversaire. Mais ça ne fait rien, David. Tu vois, nous avions tort. Nous les combattions. Pourtant, depuis le début, ils étaient de notre côté. » Le désespoir engloutit David. Toute combativité venait de s'éteindre en lui. Il avait échoué. Il avait raté son évasion et perdu Jill. Elle était une des leurs, désormais. Il était seul. Et maintenant, c'était son tour. Il était venu le chercher. D'un seul mouvement, tous les élèves de Groucham Grange surgirent de l'ombre pour former un cercle autour de lui. Les professeurs apparurent derrière M. Kilgrow. David avança lentement vers le bloc de granit. Il ne voulait pas avancer, mais ses jambes n'obéissaient plus à ses ordres. Il s'arrêta devant M. Kilgrow. Tous les regards étaient fixés sur lui. « Tu nous as résisté longtemps et durement, David, » dit M. Kilgrow. « Je te félicite pour ton courage. Mais l'heure de la lutte est finie. C'est aujourd'hui ton 13e anniversaire. Minuit approche. Tu dois faire ton choix. Écoute-moi, David. Tu es le 7e fils du 7e fils. Voilà pourquoi tu as été conduit à Groucham Grange. Tu détiens des pouvoirs. Nous désirons t'apprendre à les utiliser. » « Je ne suis pas un sorcier !» s'écria David. « Je ne le serai jamais !» L'écho de ces paroles résonna dans la caverne. « Pourquoi pas ?» rétorqua M. Kilgrow sans élever la voix, mais avec une intensité et une passion que David n'avait encore jamais entendues. « Pourquoi pas, David ? Pourquoi refuses-tu de considérer les choses de notre façon ? Tu crois que les vampires, les fantômes, les sorciers et les monstres à deux têtes sont mauvais ? Pourquoi ? Sais-tu ce que c'est, David ? Des préjugés. » M. Fitch et M. Teagle hochèrent la tête d'un geste approbateur. Madame Windergast murmura « Très juste, très juste. » « Il n'y a rien de mauvais en nous. T'avons-nous fait du mal ? Il est vrai que nous avons dû supprimer Monsieur Trolloin, mais c'est toi qui l'avais attiré ici. Nous devions nous protéger. L'ennui, David, c'est que tu as vu trop de films d'horreur. Nous autres vampires n'avons jamais le beau rôle, sans parler des loups-garous. Parce que mon bon ami Monsieur le Loup hurle les soirs de pleine lune, tout le monde se croit le droit de le chasser et de tirer sur lui des balles en argent. Et Monsieur Crier, d'accord, il est mort. Et alors ? C'est quand même un excellent professeur, bien plus vivant même que certains professeurs vivants que je ne citerai pas. » « Mais je ne suis pas comme vous, » insista David, « et je ne veux pas l'être. » « Tu as des pouvoirs, » répliqua M. Kilgrow. « C'est tout ce qui compte. » La seule question est de savoir, David, si tu souhaites réellement rester avec tes parents, pour suivre les traces de ton sinistre père dans la banque, ou bien vivre libre. Rejoins-nous et tu seras riche. Nous t'enseignerons comment faire de l'or avec du plomb, comment anéantir tes ennemis d'un simple claquement de doigts. Nous pouvons t'apprendre à lire l'avenir et à utiliser tes connaissances. Réfléchis, David. Tu peux obtenir tout ce que tu désires. Et davantage. Regarde, Mademoiselle Pédicure. Elle est éternelle. Tu peux l'être aussi. Bon, d'accord, je l'admets, nous sommes mauvais. Mes amis, M. Fitch et M. Teagle, le sont plus que nous tous. Ils ont même reçu des récompenses pour cela. Mais quel mal y a-t-il à être mauvais ? Nous n'avons jamais lâché de bombe atomique sur personne. Nous n'avons jamais pollué l'environnement, fait des expériences sur les animaux, ni réduit les allocations familiales. Nos mauvaises actions sont plutôt agréables. Pourquoi, à ton avis, existe-t-il tant de films et de livres à notre sujet? Parce que les gens nous aiment bien. Nous sommes des vilains plutôt sympathiques. Pendant le discours de M. Kilgros, les 64 élèves de Groucham Grange, sorciers, novices et jeunes adeptes, avaient resserré le cercle. Maintenant, ils se rapprochaient de David, sans le quitter des yeux. Jill se tenait près de Jeffrey, William Rufus de l'autre côté. 64 bagues noires luisaient dans la lumière souterraine. M. Kilgros tenait la 65e dans une main. « J'ai apprécié la lutte, David. Je ne voulais pas que la tâche fût trop facile. J'admire le courage. Mais maintenant, il est minuit. » M. Kilgros tendit l'autre main. Grégor avança et lui remit son couteau. « C'est pour toi l'heure du choix, David, » poursuivit M. Kilgros. « La bague ou le couteau. Tu peux nous repousser une dernière fois. Dans ce cas, je serai malheureusement obligé de te plonger ce couteau dans le cœur. Et je peux t'assurer que cela sera plus douloureux pour moi que pour toi. Ensuite, nous t'enterrerons décemment dans le cimetière de l'école. L'autre solution est de nous accepter, de prendre un nouveau nom et de commencer ton éducation avec sérieux. Mais tu ne pourras pas changer d'avis, David. Si tu nous rejoins, c'est pour toujours. » Autour de David, les visages se rapprochèrent. Il y avait la bague, il y avait le couteau. « Alors, David, » reprit M. Kilgros, « que choisis-tu ?